Bernard Hébron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. On va parler avec vous de marché, de stratégie sur ces marchés. On avait il y a quelques semaines des records hein, sur les indices actions, notamment, avec, je dirais aussi bien sur les marchés américains que sur les marchés européens. Est-ce que, je dirais, les dernières semaines ont montré un petit peu de fragilité dans cette confiance apparente de beaucoup d'investisseurs?
Alors, on avait des records sur les marchés actions, c'est exact, records historiques de tous les temps, en particulier sur les marchés américains, et records depuis un certain nombre d'années sur les marchés européens, c'est exact. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on avait aussi des records de taux les plus faibles de l'histoire sur la plupart des grands émetteurs souverains, donc les États qui sont considérés comme les plus sûrs, et à commencer par l'Allemagne, à commencer par les États-Unis, mais même l'État français avait atteint ses plus faibles taux de son histoire, etc. Donc on arrivait vraiment à des niveaux extrêmes, disons, de confiance, que ce soit sur les marchés actions ou sur les marchés de taux. Et puis cette confiance et ce soutien à tous les marchés dans leur ensemble, il a été un petit peu grippé à sa source, puisque la source de tout ce soutien à tous les marchés financiers, c'est une liquidité très très importante, et on s'interroge maintenant sur sa continuation.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le maître mot pour les investisseurs, c'est de savoir, de comprendre ou de lire à travers les lignes de la Réserve fédérale américaine.
Voilà, donc la Réserve fédérale qui a des problèmes de gens bien portants, disons, puisque au contraire de ce qui se passe sur notre continent, elle se trouve dans une situation où on a une économie qui, visiblement, selon un grand nombre d'indicateurs, est en train de repartir de manière assez durable, visiblement, hein, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur la consommation, même sur le désendettement qui commence à devenir significatif de l'économie. Donc des bons signaux. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'à un moment, toutes les mesures de soutien qui étaient faites pour être exceptionnelles, en particulier le fameux assouplissement quantitatif, toutes ces mesures de soutien vont devoir au moins s'estomper. Et donc c'est cette idée qui a été évoquée pour un avenir assez incertain, sans vraiment de date précise, mais la simple évocation de cette éventualité a fait dire à un certain nombre d'intervenants que l'élastique était peut-être un peu tendu et qu'on avait peut-être été un petit peu loin, et sur les marchés obligataires et sur les marchés actions. Et donc on a un certain nombre de corrections plus ou moins importantes selon les marchés.
Alors, il y a toujours, hein, on le voit, cette confiance vis-à-vis des réserves des banques centrales, mais en même temps, est-ce qu'on peut avoir totalement confiance? C'est-à-dire que, on le sait, en tout cas, si on regarde les dernières crises et ce qui a pu se passer sur les marchés obligataires, même si les banquiers centraux font ce qu'ils doivent faire, peut-être, les marchés, eux, réagissent de manière épidermique et pas forcément comme c'était prévu, c'est-à-dire pas forcément dans le calme.
Alors effectivement, les réactions se passent rarement dans le calme, et ce sera toute la difficulté du travail, en l'occurrence de la Réserve fédérale, hein, puisqu'en zone euro en particulier, on est un petit peu dans le cas inverse où la liquidité fournie par la Banque centrale a été tarie ces derniers mois, et donc il faut trouver un moyen d'en réinjecter en passant par-dessus les difficultés peut-être politiques, plus de notre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, effectivement, il faut réussir à enlever ça, et donc tout va résider dans le talent d'orateur, en particulier de M. Ben Bernanke et de tous les autres membres du comité de politique monétaire. Ce soutien, il doit partir à un moment. Il faut vraiment qu'on ait une idée un petit peu du calendrier, de l'ampleur du retrait de ce soutien. Alors même s'il y a des hausses de taux d'intérêt qui sont importantes, il faut se souvenir qu'on était descendu à des niveaux jamais atteints, hein, largement en dessous de 2% aux États-Unis en particulier, aux alentours de 1,6% sur du 10 ans, ce qui ne couvre pas l'inflation là-bas, donc des taux d'intérêt réels négatifs. Donc même en remontant un petit peu au-dessus de 2%, on reste très très bas. C'est simplement, voilà, la période d'ajustement qui est rapide, comme vous l'avez dit. On a assez peu de réactions graduelles, et les investisseurs doivent faire attention à ne pas forcément être le plus exposé au moment où, entre guillemets, la visibilité a l'air la plus grande, ce qui veut dire en général au moment où personne ne pense aux problèmes qui arrivent.
Oui, parce qu'on pourrait dire qu'il y a eu beaucoup de flux sur cette partie
Ouais.
obligataire hein, de beaucoup d'acteurs et que certains disent que le marché était un peu gonflé, effectivement, on a parlé de bulles et donc on se dit que la sortie, effectivement, peut être délicate puisque si, effectivement, beaucoup d'investisseurs se disent la même chose en même temps, c'est ce qui se passe quand il y a des cracks.
Voilà, c'est ce qui se passe. Alors, bulle, c'est un petit peu peut-être difficile à dire. En revanche, effectivement, pour le dire vite, beaucoup trop de demandes de papier par rapport à l'offre. Et ça a fait effectivement disons, des valorisations. Oui, ça a créé des bulles à certains endroits au moins. Clairement, sur certains émetteurs, on a des taux qui sont descendus très, très, très bas. Et c'est vrai qu'en l'espace de 2 semaines, sur certains secteurs du marché obligataire, on peut penser en particulier à la dette émergente, qui a connu un très, très grand succès ces derniers temps, on a eu en l'espace de quelques semaines de l'ordre de 6, 7, 8% de moins-value pour les investisseurs. Et 6% de moins-value, ça veut dire quoi? Ça veut dire un an de coupon obligataire qui est perdu en l'espace de 10 jours. Il faut se souvenir que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, surtout sur les obligations. À long terme, ce qu'on peut attendre comme rendement, c'est le coupon. On a un coupon de 6%. Quand on a une classe d'actifs qui a eu des performances à deux chiffres depuis des années, à un moment, ça doit corriger. On est un petit peu dans une phase comme ça, mais enfin, pour le moment, c'est vraiment assez marginal.
Vous avez cité hein, dans une de vos notes un pays d'Afrique, effectivement, avec une émission obligataire très importante, le Rwanda, je crois. Et vous l'avez mis à l'échelle de la France, ça aurait voulu dire une émission de 1 000 milliards à l'échelle de la
Alors, en fait,
France.
c'est pas ce qu'elle a émis, mais effectivement, ça illustre très bien la disproportion complète entre l'offre et la demande. Le Rwanda a demandé quelques centaines de millions aux prêteurs sur les marchés obligataires. Et en fait, en retour, les prêteurs potentiels lui ont offert l'équivalent de la moitié de son PIB. Donc plusieurs milliards. Pourquoi? Parce que l'appétit a l'air insatiable. Les investisseurs partout dans le monde ont besoin de rendement. Quand on a des taux d'intérêt qui sont proches de zéro un petit peu partout, on le sait bien en France, mais c'est la même chose au Japon, évidemment, c'est la même chose aux États-Unis, dans toutes les économies développées, les taux d'intérêt sont proches de zéro. Quand vous avez un émetteur qui vous propose quelque chose de significativement différent de zéro, et en l'occurrence, c'était quelque part entre 6 et 7%, bah, on voit tout de suite que ça suscite de l'intérêt. Et en l'occurrence, l'intérêt, il est parfois un peu disproportionné par rapport à l'offre, donc l'équivalent de la moitié du PIB, un petit peu comme si en une fois, la France émettait pour l'équivalent de 2 000 milliards d'OAT, ce qui serait un événement un peu exceptionnel.
Planétaire. Alors, du côté de l'investisseur, justement, et des investissements, comment va évoluer votre stratégie de gestion? On est un petit peu avant l'été, donc on sait que l'été, c'est jamais des périodes toujours, enfin, où il faut être prudent, faut être, j'irais, attentif à ce qui se passe, notamment au mois d'août, pour certains investisseurs. Comment ça va évoluer pour vous, cette stratégie, dans les prochains mois?
Bon, alors, se reposer sur la saisonnalité, c'est toujours en fait assez aléatoire. La fameuse recommandation qui dit qu'il faut vendre en mai et s'en aller, ça n'a pas du tout marché cette année. En revanche, ça avait bien marché les années précédentes. De même, l'été, bah, ils se suivent et ils ne se ressemblent pas. L'été 2012 a été très bon. L'été 2011 a été totalement sanglant. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, au début de ce mois de juin, c'est que justement, sur un certain nombre de classes d'actifs où les rendements étaient devenus très faibles, en l'espace de quelques semaines, on a des choses qui deviennent plus intéressantes. Les excès qu'on a vus, en particulier sur certains segments obligataires, pourront pas être résorbés en 3, 4, 5, 6 jours. En revanche, en l'espace de quelques semaines, on peut retrouver des rendements qui vont être attractifs à nouveau, des choses qui vont être un peu plus proches de ce qu'on peut attendre d'une manière rationnelle. Se renforcer sur ces classes émergentes, en particulier du côté obligataire, pour nous, ce sera un vrai intérêt. Et toujours en couvrant la devise, à chaque fois qu'on est un investisseur en euros et qu'on va investir hors de la zone euro, on doit se souvenir d'une chose, c'est que, aussi bizarre que ça puisse nous paraître, l'euro, ça reste une des devises les plus fortes de la planète. Le dollar s'est apprécié contre à peu près toutes les devises du monde ces derniers temps, sauf contre l'euro. L'euro s'apprécie un peu contre tout le reste et reste assez stable contre le dollar. Donc à chaque fois qu'on va investir ailleurs, pensez à son risque de change et en particulier à le couvrir à chaque fois que c'est possible.
Eh bien, on suivra ça. Merci d'avoir fait le point avec nous, Bernard Hébran. On rappelle que vous êtes donc directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management.